sensibiliser, informer. Bienvenue à l'Académie. Le podcast que vous écoutez a été réalisé par le Mouvement des entreprises de France et réalisé à partir d'une session de sensibilisation. Bonne écoute.
On démarre tout doucement, peut-être faire une petite introduction, rappeler que ce webinaire organisé à l'occasion de la série, mais ça tu y reviendras Inès, est organisé en collaboration avec l'Académie, l'organisme de formation intégré au MEDEF qui a pour vocation de participer à la transmission des informations stratégiques et des actualités à l'ensemble du réseau MEDEF, mais même au-delà, puisqu'il nous arrive d'organiser des webinaires ouverts au grand public parce que certains sujets nous paraît important, au point de vraiment diffuser l'information de manière assez large, parce que nous avons tous pour objectif de défendre les intérêts des entreprises et au-delà de l'appartenance au réseau MEDEF. Inès Fontelas va prendre le relais pour présenter le sujet et nos intervenants.
Merci beaucoup Gauthier, bienvenue à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour un événement organisé dans le cadre de la Semaine de l'entreprise responsable et inclusive qui porte sur l'élaboration des stratégies RSE, diversité et inclusion. Donc on va vous présenter, en tout cas nos intervenantes vont vous présenter des pratiques innovantes de gouvernance sur ces sujets. Du coup je me présente rapidement, je m'appelle Inès Fontelas, je travaille au MEDEF sur les questions d'égalité, diversité et inclusion. Et donc je suis accompagnée de mon collègue Fouad que vous entendrez tout à l'heure qui est juriste gouvernance et droit boursier. Au MEDEF également. Donc on va vous faire une introduction un peu assez rapide sur donc, le traitement de ces sujets au sein du MEDEF et puis ensuite on laissera la parole à nos deux intervenantes qu'on a la joie d'accueillir aujourd'hui, Stéphanie Goujon du groupe Vive et Clémence Béat du groupe Rocher. Donc la semaine de l'entreprise responsable et inclusive, donc c'est une semaine de sensibilisation sur les sujets RSE, diversité et inclusion qui est organisée cette année pour la 5e édition par le MEDEF et l'Association française des managers de la diversité. Cette année, on a 130 partenaires, dont l'Académie MEDEF, qui ont été mobilisés sur toute la semaine. On a plus de 100 rencontres qui sont organisées donc en présentiel, en distanciel et puis bien sûr en hybride. Sur les sujets, du coup, tout un tas de thématiques sur les sujets RSE, diversité et inclusion. On a plus de 5000 personnes qui se sont inscrites. Et puis, la journée qui a lancé la semaine, qui a eu lieu au MEDEF et que vous pourrez retrouver en replay dans quelques jours, a été l'occasion pour nous d'accueillir un certain nombre de partenaires et notamment 13 associations partenaires qui nous ont fait la joie de se présenter aux participants qui étaient en ligne. Tous les événements de la semaine et la journée d'ouverture seront accessibles en replay, en tout cas pour une grande majorité. Donc, vous aurez dans quelques instants le QR code que vous pourrez flasher pour retrouver nos partenaires et puis le lien du site de la série. Donc cette année, on a décidé d'avoir un thème assez important pour cette série. Donc on a un thème qui couvre toute la semaine, qui est RSE, diversité et inclusion comme levier de transformation des organisations. Et ensuite, ce thème s'est décliné sur 4 journées thématiques. Donc ce lundi, c'était la journée d'ouverture globale avec les présentations de certains livrables du MEDEF et de la FMD. Ensuite, on a une journée pilotée, une journée mobilisée, une journée communiquée. Et puis aujourd'hui, on s'inscrit dans la journée innovation sur les sujets RSE, diversité et inclusion. Vous pouvez trouver sur cette slide tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette série. Et puis, toute la semaine, il y a aussi un certain nombre d'acteurs qui ont souhaité se mobiliser pour organiser des événements, que ce soit des événements présentiels dans les territoires, mais aussi valoriser leurs pratiques ou leurs livrables. Vous pourrez retrouver tous les liens et tous les replays, soit en flashant le QR code pour retrouver nos partenaires, soit sur le site de la série, donc laserie.org. Cette semaine, pour nous, donc, qui a lieu depuis 5 éditions, c'est important pour nous d'aborder les sujets de RSE, diversité et inclusion, puisque ça représente 3 enjeux. Tout d'abord, une démarche donc, de pédagogique et de sensibilisation sur ces sujets. Cette semaine, elle est là pour assurer un partage de bonnes pratiques et notamment une fertilisation croisée entre les acteurs, donc pouvoir répliquer des bonnes pratiques au sein d'autres organisations, d'accompagner bien sûr les employeurs sur que ce soit les nouvelles obligations légales, mais aussi les nouveaux challenges qu'ils peuvent rencontrer, et puis adopter une démarche prospective. Donc c'est surtout pour cette journée qu'on a une démarche prospective, notamment d'aborder des nouvelles thématiques, de voir comment évolue la société et donc comment les entreprises sont impactées par ces évolutions. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu bien sûr de compétitivité et d'attractivité. C'est important pour nous de montrer que ces sujets sont des leviers de performance, les leviers aussi de nouvelles opportunités et d'innovation pour les entreprises, qui in fine se traduisent par un enjeu fort d'attractivité, de marque employeur et de fidélisation, des collaborateurs et collaboratrices au sein des entreprises. Puis le dernier point, et donc le webinaire d'aujourd'hui en est le parfait exemple, c'est la mobilisation collective et notre volonté vraiment de fédérer les acteurs de l'écosystème RSE, diversité et inclusion, et au-delà de ça, de fédérer les employeurs sur ces sujets. Donc vous l'avez vu, on a de nombreux partenaires et de nombreux intervenants et intervenantes qui se sont réunis encore une fois cette année pour vous sensibiliser et pour présenter leurs bonnes pratiques. Et puis ça nous permet, nous, de montrer que les sujets de RSE, diversité et inclusion, c'est vraiment des sujets desquels les employeurs peuvent et doivent se saisir, les employeurs de toute taille, de tout secteur, et puis que ça représente une diversité de thématiques. Donc voilà, vous pourrez retrouver tout ça sur le site de la série. Et je passe la parole à mon collègue Fouad.
Bonjour à toutes et tous. Merci Gauthier pour l'introduction et merci Inès. Je suis très content de co-animer cette session avec toi. Donc moi, je m'appelle Fouad Sali, je suis juriste chargé de mission au sein du MEDEF et j'interviens sur ces sujets-là au travers de plusieurs instances et notamment le comité gouvernance des entreprises qui a été mis en place il y a maintenant 6 ans, donc 2019, et il est en charge de transmettre les bonnes pratiques de gouvernance à toutes les entreprises, à tous les chefs d'entreprise et à toutes les typologies d'entreprises. On oublie un peu trop souvent que la gouvernance d'entreprise ne se limite pas au conseil d'administration et au président-directeur général. On est dans une volonté d'accompagner nos adhérents sur la prise en main de ces enjeux-là. Et l'organisation de cet événement s'inscrit totalement dans cette philosophie-là, puisque vous le verrez, on a deux très beaux témoignages d'innovation en matière de gouvernance et qui visent à mettre en place des nouvelles pratiques de diversité, inclusion et RSE. Et nous, c'est cette philosophie-là qu'on a, c'est de prendre par la main les chefs d'entreprise et de leur montrer que c'est possible de mettre en place de nouvelles pratiques. Et donc, je laisserai à Inès le soin d'introduire nos deux intervenantes pour qu'elles puissent leur donner la parole et vous présenter ces deux précieux témoignages.
Merci. Alors, on va donner la parole tout de suite à Stéphanie Goujon, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, qui est directrice empreinte mutualiste et donc membre du comité de direction générale du groupe Vive, et qui va nous présenter la convention santé-environnement qui a été portée par Vive et qu'on a considéré être une très bonne pratique sur les sujets, notamment du coup d'environnement. Donc, je vous laisse la parole, Stéphanie.
Bah, merci beaucoup Inès, merci Fouad pour l'invitation. Alors c'est vrai que là on va parler d'une méthode, d'une pratique qui, à notre connaissance, est assez inédite dans les organisations privées. Mais on fait aussi plein de choses bien en diversité et inclusion avec mon collègue Vincent Poirel. Et voilà, je pense qu'il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait aussi partager dans d'autres séquences. Donc là, le sujet, c'est effectivement de croiser à la fois un processus de démocratie participative interne à l'entreprise et un sujet qui est celui de la crise écologique et de ce que peut faire un groupe comme le nôtre, un groupe de santé par rapport à ces nouveaux risques. Et en fait, l'ambition, hein, de cette convention santé-environnement, cette convention interne que nous avons menée au sein du groupe Vive, était bien sûr en premier lieu d'inscrire ces enjeux comme un axe fort de la stratégie. Peut-être c'est utile de rappeler que le groupe Vive est le premier groupe mutualiste en termes de santé et de protection sociale, qu'il a trois métiers, un métier plus sur la complémentaire santé, qui est celui sur lequel on le connaît plus et protège à peu près 11 millions de personnes en France. Un métier qui est celui du soin, donc et de l'accompagnement. Donc il y a à peu près 2 000 établissements partout sur le territoire, des EHPAD, des crèches, des centres dentaires, des cliniques. Et un troisième métier qui est le logement social. Donc on est le quatrième bailleur social en France. Voilà, c'était juste pour resituer le groupe Vive, hein, sur la santé au sens large, avec un credo qui est le droit à la santé. Donc bien sûr, comme on sait que crise écologique, que ce soit la qualité de l'air, la pollution des sols, les canicules ou les inondations, comme on voit en ce moment, ont un impact sur notre activité économique, bien sûr, mais aussi sur notre santé. On s'est intéressé à ce sujet, et c'est une question de responsabilité et de bon sens, bien sûr, que de voir comment faire évoluer nos modèles par rapport à ces nouveaux enjeux. Le deuxième ambition de cette convention, c'était aussi, donc nous on est mutualistes, donc la démocratie, l'aspect démocratique est dans nos gènes hein, en tant qu'acteurs d'économie sociale et solidaire. Pour rappel, on n'a pas d'actionnaires, hein, un groupe comme Vif qui pèse quand même hein, 10 milliards d'euros en chiffre d'affaires, il n'y a pas d'actionnaires. Au conseil d'administration, ce sont des adhérents qui ont été élus et qui siègent à notre conseil. Mais on s'est dit, voilà, par rapport à toutes les problématiques qu'on voit aujourd'hui et l'évolution aussi des entreprises, bah, ça nous semblait important de faire vivre d'une autre manière notre mutualisme et la convention a été un des outils, un des leviers auxquels voilà, nous avons pensé. Et puis sur des sujets, et c'est le dernier point, comme les crises, enfin la réponse, on va peut-être arrêter de parler de crise, mais la réponse aux enjeux de transition écologique sont tellement complexes. Nous, on est persuadés que ça peut, les solutions peuvent pas venir d'une décision verticale et jupitérienne. Ça marchera jamais. Nous, ce qu'on croit, c'est que il faut faire jouer l'intelligence collective et se concerter avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc c'est pour ça, pour ces trois raisons, qu'on a souhaité mettre en place, donc inspiré des conventions citoyennes, notamment celle sur le climat, qu'on a souhaité mettre en place une convention interne au groupe Vive. Et on a posé une question en fait aux élus, aux collaborateurs, aux conventionnaires qu'on a réunis. Je vous parlerai après juste du process. Face au dérèglement climatique et à la dégradation de la biodiversité, quels sont les dispositifs, leviers et mesures que le groupe Vive pourrait actionner en matière de protection sociale, de services et de solutions sur ces trois métiers à destination de ces différents publics? La question, elle est longue. C'est toujours un sujet hein, dans les conventions. Il y a d'ailleurs eu un échange avec les conventionnaires. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on était vraiment orienté sur les actions, les solutions. Au sein de notre modèle d'affaires. Je pense que ça, c'est très important de le retenir, quoi. On ne voulait pas être dans l'incantatoire, pas se limiter au diagnostic, mais vraiment être sur le modèle d'affaires. C'est un dispositif, effectivement, qui a été engageant. Donc, dans les étapes qu'il y a eu, il y a eu une étape de tirage au sort, mais sur base volontariat, hein. Voilà, je vous dis, on a 46 000 collaborateurs et 10 000 élus. On les a pas tirés au sort comme ça. On a d'abord fait un appel à volontariat et ensuite, on a tiré au sort pour avoir un panel représentatif de la diversité de tous nos métiers. On a plus de 23 métiers de la santé hein, dans le groupe, de tous nos territoires, hommes, femmes, etc. Donc ça, c'était déjà quand même une gageure parce que c'était il a fallu un mandat, une participation signée par la présidence du groupe parce que voilà, il fallait aussi que certains managers bah, puissent laisser des infirmières participer à nos sessions voilà au sein de la convention. Donc on a eu quatre sessions de travail, donc 4 jours complets et puis avec des intersessions entre deux pour en fait aboutir à un socle de propositions. Bien évidemment, on n'a pas laissé le panel qui avait été tiré au sort, qui n'était pas un panel d'experts. On les a pas laissés comme ça tout seuls démarrer un processus de réflexion. On a commencé à la première session, on a eu tout un monté en compétences. On a fait intervenir des experts, on a mis à disposition un socle voilà de connaissances, une bibliothèque de ressources. Et après, ils ont pu se lancer dans le processus d'idéation, de délibération, parce qu'il y avait 90 hein, propositions au démarrage et ils les ont hiérarchisées et on aboutit à 24 prioritaires. Et ce qui est très important, donc moi j'ai eu un mandat au Conseil économique et social au moment de la Convention citoyenne pour le climat. Je le dis hein, sans ambages, ce qui a été très important pour nous, ça a été de dire d'entrée de jeu, ce sera pas sans filtre. Tout ce que vous allez sortir comme bonnes idées, on sait que tout ne sera pas faisable, parce qu'encore une fois, ce n'est pas des experts, etc., et on ne pourra pas tout faire. En revanche, il y a un droit de suite. En revanche, nous on va vous dire. Pourquoi on prend les choses et pourquoi on ne prend pas les choses qu'on ne prend pas. Et d'ailleurs, on va mettre en place un comité qui va instruire les propositions. Et dans ce comité, il y aura des experts métiers, mais il y aura aussi des représentants des 60 conventionnaires. Voilà, ça, je pense que ça, c'est extrêmement important dans le succès du dispositif. Et c'est ça aussi qui, en fait, j'allais dire, sa vertu démocratique jusqu'au bout. Et je pense d'ailleurs que je suis pas loin d'avoir fini. Alors, une innovation démocratique, voilà, je l'ai un petit peu dévoilée déjà là. Donc c'était un engagement un peu différent de parties prenantes. Donc ce qui était important là dans cette convention et je propose à tous les auditeurs qui le souhaitent de leur envoyer par le truchement du coup du MEDEF la recette open source de notre convention. On a dressé vraiment un document qui explique comment on a fait, qui explique là où on s'est planté, où on peut faire mieux, et qui recommande un certain nombre de choses pour les entreprises autour de la table qui seraient intéressées pour mettre en place ce type de dispositif en leur sein. Donc bien sûr, ce qui est important, c'est leur représentativité. Donc nous, je répète, c'est 46 000 collaborateurs et 10 000 élus mutualistes. Le deuxième élément, principe extrêmement important, c'est la notion de délibération. Donc, ça a été voilà toute la méthodologie pour produire des idées, pour les hiérarchiser. En cela, on a été épaulé pour l'animation par un cabinet qui s'appelle Bluenov, si certains d'entre vous connaissent. Et puis le troisième élément, je viens d'en parler, c'est le droit de suite, c'est le comité de suite. Donc nous, on a deux conventionnaires qui sont au sein de ce comité de suite qui est représenté d'une dizaine de personnes qui viennent des différents métiers, qui sont des experts, on va dire, du groupe, qui en prévention, qui en accompagnement, en équipement médical, qui en assurance. Et il y a deux conventionnaires qui sont voilà, qui siègent aussi en permanence à nos côtés par rapport à l'opérationnalisation en fait des idées qui ont été produites. Alors moi, à titre personnel, je suis extrêmement orientée action. Donc bien évidemment, on a fait ça pour avoir des propositions de solutions. Et il y en a eu 24 qui ont été, il y en a eu plus que ça, hein, je vous avais dit 90, mais 24 qui ont été jugées vraiment à mettre en œuvre et prioritaires par la Convention. Comme on ne peut pas écraser le temps, il y en a 6 qu'on a priorisées pour une mise en œuvre là dans les prochains mois. Donc je peux vous citer certains de ces dispositifs hein, qui sont là en cours de mise en place, de mise en œuvre. Il y a eu un sujet sur tout ce qui est éco-anxiété. Donc, on parlait beaucoup de santé mentale. C'était la journée de la santé mentale la semaine dernière. Et un des éléments, des raisons pour lesquelles nos concitoyens, et notamment certains jeunes, mais pas que, se sentent pas au mieux de leur forme, c'est aussi le stress qui est lié hein, aux crises écologiques. Donc, sans vouloir pathogénéliser cette question de l'éco-anxiété, nous, on est en train de, voilà, de tester un certain nombre d'éléments pour proposer des parcours, des solutions aux personnes qui sont, voilà, qui expriment un stress par rapport à ces questions de crise écologique. Un autre exemple, c'est au niveau de d'un autre métier, qui est le métier, je vous ai dit, des établissements et des soins. On souhaite accélérer la question des équipements médicaux recyclés ou éco-conçus. Donc, il y a des choses qui existent, hein, par exemple, d'avoir des attelles totalement éco-conçus ou des fauteuils roulants qui sont rénovés, recyclés. Voilà, ça c'est une des actions qui a été jugée prioritaire, c'est comment on accélère, sachant qu'il y a aussi des réglementations qui se mettent en place, ce type d'action. Et puis je vais vous citer peut-être une troisième action. Je vais pas citer les six, sinon je serais trop longue et je vais laisser la parole quand même à Clémence aussi. C'est sur tout ce qui est diagnostic santé des territoires. Quand on parle de crise écologique, et nous, en tant que mutualistes, on a un véritable ancrage territorial, il y a bien sûr un sujet local. Et donc là, on s'intéresse à voir comment on pourrait faire des diagnostics santé territoriale en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, donc bien sûr les collectivités territoriales. Et on a eu par exemple une expérience intéressante en région Normandie avec un organisme public qui s'appelle le Health Data Hub. On a croisé en fait les données environnementales du territoire, les données santé par rapport à la production de pollen, et ce qui permet en fait de pouvoir avoir une meilleure politique de prévention, parce qu'on sait quand va y avoir un pic d'allergie, et ça nous permet voilà de prévenir. Ça permet aussi potentiellement bah, peut-être d'éviter des arrêts de travail inutiles, puisque les gens prennent leurs médicaments au bon moment. Donc ça, c'est des choses bien sûr qui nous intéressent. Et donc du coup, c'est parmi les exemples que vous pouvez vous citer en termes d'action. On a aussi en cours un serious game sur les sujets climat, santé, biodiversité qu'on va pouvoir proposer à tous nos partenaires. Nos partenaires sociaux notamment sont intéressés. Tout ça, on pourra bien sûr en reparler. Et la troisième chose, et j'en aurais fini, qui était vraiment intéressante en termes de livrable très concret de cette convention, c'est que donc moi, à la direction Empreinte Mutualiste, j'ai notamment tout le volet RSE. Et là, j'ai une communauté exceptionnelle, hyper aguerrie, conscientisée, de 60 collaborateurs et militants. qui sont sur le terrain, qui sont dans les différentes mutuelles et entités du groupe, et qui peuvent, je le disais tout à l'heure, pour réussir les mutations, ça peut pas venir du vertical, et qui vont, bah voilà, être les transformateurs de notre modèle d'affaires, de notre voilà, modèle de solution, notre modèle de gouvernance. Je pense, Inès, que j'ai été assez bavarde comme ça, donc j'en ai fini pour les diapos. Après, je ne sais pas, dans le modèle, j'ai oublié s'il y avait une session de questions-réponses, peut-être après l'intervention de Clémence, mais en tout
T'inquiète.
cas, à disposition sur le chat et pour communiquer, bien sûr, les documents dont je vous ai parlé. Merci beaucoup pour l'attention.
Merci Stéphanie. Alors, on va laisser la parole à Clémence et puis après, n'hésitez pas à poser vos questions pour ne pas les oublier dans le chat. Comme ça, nous, on va pouvoir après les poser à Stéphanie et Clémence dans un moment d'échange qu'on aura juste après. Mais n'hésitez pas, le chat sert à ça. Merci beaucoup Stéphanie. Et du coup, je passe la parole à Clémence Béat, qui est directrice de l'innovation sociale du groupe Rocher et qui, du coup, va nous parler des pratiques de gouvernance, notamment d'intégration des parties prenantes au sein des politiques diversité et inclusion, mais qui a été inspiré par, si je ne me trompe pas, par vos politiques environnement slash RSE. Donc, Clémence, la parole est à toi.
Super, merci beaucoup Inès. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, le sujet principal était celui de la gouvernance. Groupe Rocher, pour repréciser déjà dans notre mode de fonctionnement et notre spécificité, on est entreprise à mission. Groupe Rocher, je ne l'ai pas rappelé, c'est un groupe international, 15 000 salariés, 2,3 milliards de chiffre d'affaires. On est essentiellement présent dans le secteur de la cosmétique avec la marque Yves Rocher, notamment Petit Bateau, Sabonne, Narbonne. Et du coup, on est entreprise à mission depuis 5 ans et on s'est donné la mission de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Donc un sujet ou en tout cas une problématique, un enjeu très environnemental, mais dans le fait d'être entreprise à mission, ce que ça sous-tend derrière, c'est aussi un mode de fonctionnement un petit peu particulier, puisque du coup, pour piloter, animer et challenger ce statut d'entreprise à mission et de se dire que ce n'est pas juste une belle phrase sur les murs, mais que derrière, il y a des actions à impact qu'on est capable de mettre en œuvre, de reporter, de démontrer sur l'ensemble de nos sites et de nos marques, on a mis en place un comité mission qui est constitué de différentes parties prenantes, donc des gens qui sont dans l'entreprise, des gens qui sont en dehors de l'entreprise, et c'est comme tu le disais, Inès, effectivement un point important. Là, ce que je voulais vous partager, en tout cas, c'était l'importance des parties prenantes et comment, en tout cas, nous, on a la conviction que pour opérer un changement, qu'il soit environnemental ou social, et du coup, on sait que les changements, ils sont nombreux et assez monstrueux dans ces deux sphères-là, et bien du coup, ça passe par la pleine prise conscience de nos parties prenantes et la pleine intégration des parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Et du coup, je commence l'histoire par un sujet environnemental, mais pour le transposer sur la sphère sociale, sur diversité et inclusion. J'ai eu la chance de travailler il y a 2 ans de ça sur un projet environnemental, et l'objet, c'était de réduire l'impact carbone de nos usines en Bretagne. Et le sujet, on a commencé par le prendre sous l'angle de la technique, de l'ingénierie, c'est-à-dire bon, quelle est la bonne technologie, quel est le bon intrant, est-ce qu'il faut qu'on verdisse, est-ce qu'on fait, on passe du gaz au biogaz, voilà. Donc le sujet est parti de manière très pilotée par des cerveaux d'ingénieurs, je dirais. Et finalement, on s'est dit bah ouais, mais nos choix techniques, ils sont quand même très influencés par qu'est-ce qui fait du sens localement, quelle est la matière première qui est disponible dans une échelle géographique relativement restreinte. On a ouvert à ce moment-là une discussion et un échange avec nos parties prenantes locales, avec nos fournisseurs locaux, avec nos transporteurs locaux, avec les collectivités, avec nos salariés aussi en interne, etc., etc., et avec des associations aussi avec lesquelles on avait des contacts pour challenger finalement les choix ou les partis pris qu'on pouvait être amené à faire sur la transition énergétique de nos usines. Et là où on était parti sur une solution qui était voilà, plutôt sur de la méthanisation, etc., peu importe l'objet technique qu'il y avait derrière, mais on en est arrivé à la conclusion que bah, nos agriculteurs dans le secteur, finalement, les intrants agricoles, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Donc, si on allait chercher de la matière à méthaniser, bah, probablement que ça générerait un impact plutôt négatif sur la communauté agricole alentour. Et que par contre, ce qu'il y avait en quantité, c'était du bois. Du bois parce qu'on a un bocage extrêmement riche et que du coup, il y a du bois en quantité et ce bois n'est pas forcément exploité. En plus, ça permet de donner un revenu aux agriculteurs qui élaguent les haies, etc. Et du coup, on a fait notre choix technologique en fonction bah, de ce critère-là qui était qu'est-ce qui est disponible sur le territoire. Et donc, on a investi massivement dans des chaudières à bois pour faire tourner nos usines. Mais tout ça, on a réussi à le faire que parce qu'on a réussi à dialoguer finalement avec nos parties prenantes locales. Et la conviction qu'on a, c'est que bah, la transition écologique est quand même, enfin, et la transition climatique est un enjeu qui nous dépasse tous, mais ça ne peut se faire que si on engage tout le monde, si on ouvre le dialogue, si on échange avec nos parties prenantes internes et externes. Donc, il y a des choses qui sont de l'ordre des choix de l'entreprise sur des choix techniques, technologiques, etc. Mais on a aussi tout le volet de ce que les salariés peuvent faire à leur niveau pour engager une transition écologique en matière d'alimentation, de transport, de numérique responsable, etc., etc. Et donc, on a aussi mené pas mal de choses en lien avec des associations également pour amener une forme de changement des pratiques et des comportements auprès de nos salariés. Le message que je veux vous faire passer là, au-delà de l'aspect technique et de la petite anecdote, c'est simplement que on a la conviction que pour opérer des changements à impact et des changements à grande échelle, il est impératif de savoir dialoguer avec nos parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Pourquoi ? Parce qu'on a, si on veut avoir un impact, il faut développer notre capacité d'écoute, comprendre les tenants et aboutissants, comprendre les fins, comprendre les leviers d'accélération aussi, et puis pouvoir les activer, donc finalement capitaliser sur une masse d'individus beaucoup plus importante que uniquement quelques personnes qui sont en gestion de projet. Et du coup, quand j'ai pris la responsabilité du sujet diversité et inclusion, donc j'ai basculé ensuite au sein de la DRH et j'occupe ces fonctions-là actuellement, on a opéré un petit peu la même logique, c'est de se dire comment on embarque nos parties prenantes internes et externes sur ces sujets-là. Alors, on n'est pas du tout au bout du chemin et on va encore beaucoup s'améliorer. Mais je voulais vous parler de trois choses. Le premier point, c'est effectivement la gouvernance. Donc, aujourd'hui, on a mis en place un réseau à la fois international et aussi, un niveau de pilotage, un comité international pour avoir une hauteur de vue ou en tout cas partager des parties commun au niveau du groupe. On a activé du coup des réseaux beaucoup plus locaux qui eux sont dans la mise en action, capter les signaux, engager les salariés dans la discussion, se connecter avec des associations locales, etc., etc. Et la prochaine étape, c'est d'accélérer, pouvoir intégrer aussi nos clients et nos clientes dans ces sujets de diversité et inclusion pour aller un pas plus loin et probablement d'accélérer aussi sur la connexion qu'on peut avoir avec la société civile. C'est-à-dire que là-dessus, je pense qu'on peut encore aller plus loin pour connecter nos actions au-delà de nos murs, au-delà des murs de l'entreprise. Ça, c'est sur l'aspect plutôt de gouvernance, sur l'aspect de la politique. On a structuré une politique diversité et inclusion. Sur un périmètre international, vous le savez, c'est pas forcément évident d'adresser les sujets de la même manière, étant donné les biais culturels et les spécificités à la fois légales et culturelles. Donc, du coup, on a défini un certain nombre de sujets qui sont génériques, communs et qui vont concerner l'ensemble des salariés du groupe, à savoir développer une culture de l'inclusion, le sujet de gender equity, et le sujet de la diversité culturelle. Et on a laissé la main au local, c'est-à-dire aux équipes qui connaissent la culture locale, qui sont emprunts des pratiques et des freins éventuels qui les environnent, pour définir des sujets complémentaires. Donc, on a des sujets communs et on laisse la main finalement au local pour aller plus loin, aller sur des sujets de handicap, de diversité d'orientation sexuelle, etc., etc. Et du coup, plutôt que d'imposer X sujets communs au niveau du groupe, on a plutôt imposé le fait que eux se donnent des sujets communs sans forcément les guider directement, et on leur a donné les moyens plutôt méthodologiques d'aller faire ce travail de connexion, d'écoute avec les parties prenantes internes et externes. Et ensuite, dans les éléments de pilotage, pour pouvoir s'assurer qu'on a une écoute suffisante ou en tout cas que nos impacts y sont positifs, on a mis en place un tableau de bord qui va reprendre trois types d'indicateurs. Le premier, c'est un indicateur de perception. Donc, on va interroger nos salariés sur l'impact qu'ils perçoivent de nos actions en matière de diversité et inclusion. On va interroger leurs ressentis. Je suis pas sûre que ça se soit particulièrement innovant. C'est juste que c'est vraiment un sujet qu'on regarde de près et on analyse et on identifie en tout cas les spécificités locales, les freins et les accélérateurs qu'on peut identifier au sein des pays sur les sujets diversité et inclusion. Le deuxième type d'indicateur, ça va être les moyens, c'est-à-dire combien de personnes ont été formées, combien de personnes ont été sensibilisées, etc. Et le troisième indicateur, qui est évidemment extrêmement important, c'est les indicateurs d'impact. Ok, on a une perception donnée, mais dans les faits, combien de femmes dans les comités de direction, combien de personnes en situation de handicap, combien de nationalités diverses au sein de nos entreprises, etc., etc. Ce que je veux dire en tout cas, et pour essayer de synthétiser un petit peu l'ensemble de mon propos, c'est que on n'est pas du tout au bout du chemin, mais que en tout cas on a fait un travail de screening, d'identification de nos parties prenantes internes et externes. Donc interne, on va avoir le management, les salariés, nos organisations syndicales, nos communautés, etc., etc. En externe, on a nos fournisseurs, nos clients, les collectivités, les écoles, les associations, etc. Pour se dire comment on arrive à connecter au maximum ces parties prenantes-là pour les faire dialoguer. C'est un peu dans cette logique-là que s'inscrit notre démarche diversité et inclusion, de même que notre démarche environnementale. Alors, c'est pas sans poser des problèmes et des difficultés, parce que c'est pas forcément simple de faire dialoguer des parties prenantes qui se comprennent pas toujours ou qui n'ont pas le même langage. Mais en tout cas, on a la conviction que c'est en faisant ça qu'on aura aussi plus d'impact en interne au sein de l'entreprise et aussi en dehors de nos murs, au sein de nos collectivités locales.
Merci beaucoup Clémence. Alors on a quelques questions dans le chat qui peuvent, je pense, vous intéresser toutes les deux. Alors il y a une question sur les réseaux d'employés en interne, savoir si comment s'est passée la collaboration avec vos ERG si jamais il y en avait. Et Gauthier, tu peux poser ta question, mais je pense que ça fait bien le lien avec la question que tu avais en tête, je crois.
Oui, exactement. Une question pour vous deux. Dans toutes les actions que vous mettez en place, comment vous faites le parallèle avec le CSE et avec les élus syndicaux? Parce que il faut pas que ces actions donnent l'impression de mener un dialogue social en parallèle des actions des élus. Donc, comment ça a été perçu et comment vous l'avez présenté pour que ça soit accepté par tous?
Nous, le sujet, il a plus été managérial que CSE, en fait. On était sur la production concrète d'idées, de solutions, d'actions. C'était pas en lien avec, enfin, ça empiétait pas véritablement sur la question des conditions de travail, de l'ambiance globale, etc. C'était quand même assez orienté, j'allais dire, action business entre guillemets, bon, parce que nous c'est un business quand même un petit peu particulier. Donc le sujet il a plus été managérial. Après nous ce qui nous a beaucoup aidé c'est que il y avait un portage politique d'une part hein, par donc nous je vous ai dit hein, le système mutualiste avec les élus, le conseil d'administration. Donc il y avait une lettre de mission hein, qui était signée par le président du groupe. Et puis c'est aussi des sujets sur lesquels tout le monde a envie de monter en compétence. Ça correspondait à une aspiration quand même assez profonde d'un certain nombre de collaborateurs et d'élus. Voilà, donc on a mis dans la feuille de route, quand on va au CSE présenter la globalité de la feuille de route RSE, bien sûr, c'était un élément clé. Mais en fait, moi, honnêtement, j'ai eu assez peu de questions sur cette méthode qui était innovante, mais ça n'a pas soulevé de problématiques particulières.
Clémence,
Et de
peut-être que
mon
tu peux
côté,
en... sur les organisations syndicales, ils font partie des parties prenantes qu'il faut complètement intégrer dans les échanges et dans le dialogue finalement autour des sujets qui soient environnementaux ou sociaux. Nous, on n'a pas eu trop de difficultés dans la mesure où il y a de la transparence et de l'honnêteté dans le partage de là où on veut aller, comment on va s'y prendre, et que finalement on leur donne le même niveau d'information que celui qu'on peut avoir. C'est-à-dire, on vous restitue là où on en est, voilà où on en est au niveau des chiffres, voilà ce que disent nos salariés sur ces sujets-là, etc., etc., et qu'on construit finalement les prochaines étapes avec eux et qui sont aussi acteurs. Donc, on n'a pas eu tellement de difficultés, je dirais, pour avancer avec nos partenaires sociaux, mais je pense que la condition, c'est la transparence, de l'honnêteté et surtout de les rendre acteurs et contributeurs, en fait, comme toute autre partie prenante qui doit complètement contribuer au dialogue social de l'entreprise. Donc c'est voilà, je pense que c'est plus une question de les mettre dans la bonne posture de contributeurs et non pas juste, faut pas les placer comme étant à côté d'eux, mais bien dans le changement que l'entreprise souhaite opérer, quoi.
Merci beaucoup.
On va, je pense, passer sur la deuxième question du chat qui s'adresse spécifiquement à vous, Clémence. Est-ce que vous avez mis en place au sein du groupe Rocher un réseau d'ambassadeurs sur les sujets de diversité et inclusion? Comment est-ce que vous les formez pour relayer vos orientations en la matière? Parce que je crois que le groupe Rocher est composé de plusieurs marques en France et à l'étranger. Comment est-ce que vous arrivez, vous, à faire huiler toutes les orientations qui sont prises à la maison mère auprès de toutes les entités? Et comment, à l'inverse, vous faites remonter toutes les préoccupations et les tendances dans ces entreprises-là?
C'était une volonté d'ouvrir à pas que des fonctions RH, justement. Donc, on a dans ces acteurs-là ou dans ces ambassadeurs-là des gens qui sont volontaires. Donc, en fait, le premier parti pris, c'était de dire déjà, on a besoin de gens pour qui ça vibre, qui ont envie de s'impliquer. J'imagine que c'est le cas dans vos entreprises aussi. Donc, en fait, on a fait appel au volontariat qui souhaite s'impliquer sur ce sujet-là et porter le sujet et l'animer au sein de sa direction, au sein de son site ou de son pays. Et donc, on se retrouve avec différents horizons, et ça c'est une richesse déjà en tant que telle. Oui, on les forme à la fois sur, enfin je sais pas si c'est de la formation, en tout cas les informe sur voilà quels vont être nos jalons communs, nos partis pris communs, etc. Et on a co-rédigé et avancé ensemble sur une charte, sur une politique diversité et inclusion avec des partis pris, je dirais. Et après, on les forme sur des sujets un peu plus d'expertise, sur le sujet du genre, sur le sujet de l'équité, etc. Et donc là, on y va étape par étape en fonction des besoins qui sont prioritaires, mais on met en place un certain nombre de formations formations, l'idée étant de les rendre train the trainer, en tout cas qu'ils soient en capacité, eux, de démultiplier. Donc du coup, en tout cas au niveau central, on n'a pas pour objectif de nous former 15 000 collaborateurs, mais bien de donner la main et de empower, j'ai pas le terme en français, vous m'excuserez, mais de responsabilisation, on va dire, de nos relais locaux pour que eux soient en capacité de démultiplier, former à leur tour, etc. Donc l'idée, c'est de travailler vraiment en réseau avec des acteurs locaux, et ça résonne beaucoup. Enfin, le local, en tout cas, la connaissance du local et de la culture locale est hyper importante quand on est sur un contexte international, parce que clairement, les sujets, on les adresse pas pareil selon qu'on soit aux États-Unis, au Japon, au Maroc, etc. Donc c'est bien les gens qui sont sur place qui savent en fait la finesse du dialogue, comment prendre les choses, etc. Donc on s'appuie beaucoup sur ces relais locaux, donc c'est pas très top-down finalement, on a quelques points de partage et quelques lignes directrices communes, mais il y a beaucoup d'autonomie qui est laissée aux acteurs locaux, et je pense que c'est comme ça qu'il faut avancer sur ces sujets-là pour qu'elles résonnent beaucoup plus fort et de manière beaucoup plus pertinente dans nos différents pays.
Je rebondis juste sur ta réponse, Clémence, pour demander à Stéphanie peut-être de nous en dire plus sur la manière dont vous avez formé vos conventionnaires, comme vous le disiez, pour faire en sorte qu'ils aient un socle commun d'enseignement et qu'on puisse être sûr qu'ils sachent exactement de quoi ils parlent pour avoir des actions pertinentes.
Quelle bonne question. Alors là aussi, on a tâché d'être démocratique, c'est-à-dire que on avait identifié un socle d'experts pour démarrer hein, la convention. Donc il y a des personnes qui sont venues à la fois sur la méthode, hein, parce que cette méthode de convention, d'idéation, elle est quand même assez inédite et singulière, mais aussi des experts climat, des experts biodiversité. On leur a demandé qui ils aimeraient avoir comme intervenant pour être formé sur ces sujets. Donc nous, on avait proposé un socle et ensuite ils ont pu participer et enrichir ce socle. Et d'autre part, il y avait une bibliothèque de ressources qui était mise en ligne sur une plateforme pour les conventionnaires. Et enfin, troisième élément, il y a eu des rencontres intercessions qui ont permis aux conventionnaires de rencontrer aussi des experts métiers. On a mis en place aussi avec eux un outil qui est la fresque. On a fait sur le format de la fresque une fresque santé, climat, biodiversité, qui est un outil du coup sur lequel hein, on capitalise et qu'on commence à généraliser au sein de notre groupe. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, de le transformer un peu en format serious game pour que ce soit encore plus facilement applicable. Et donc, cette fresque inspirée du fresque sur le climat m'a donné les grands enjeux, les grandes masses quantitatives sur ces questions de lien. Hein, c'était vraiment lié à notre métier, comment la dégradation de la biodiversité et les dérèglements climatiques impactent notre santé. Donc, il y a eu à la fois les experts, la fresque, la bibliothèque de ressources, et la possibilité en intercession de nous mobiliser sur tel ou tel type de problématique.
Merci beaucoup Stéphanie. Je crois que Gauthier, tu avais une question.
Oui, c'est vrai que les deux, vous avez mis en avant aussi l'approche territoriale des actions que vous menez. J'ai une petite question parce que quand on est une grosse entreprise ou un gros groupe, il y a peut-être un peu plus de muscles pour s'organiser. Mais est-ce que vous avez des outils qui permettent justement cette coordination de toutes les actions territoriales? Par exemple, quand Clémence vous parlait d'aller voir les parties prenantes, comment vous êtes organisé pour coordonner dans l'ensemble des territoires dans lesquels vous êtes présent? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à une entreprise qui a peut-être une plus petite taille et qui souhaiterait avoir cette approche un peu territoriale?
Alors, boîte à outils, je vais avoir du mal à répondre parce qu'on n'a pas vraiment de boîte à outils, très honnête. Par contre, il y a, si ce n'est les boîtes à outils de type travailler en intelligence collective, etc. On n'est pas sur les mêmes temps, l'entreprise, c'est efficacité, rapidité, etc. Les collectivités, on est sur des enjeux de plus long terme, etc. Donc, c'est surtout favoriser beaucoup l'écoute. Et en vrai, moi, j'ai constaté qu'il y a des gens qui sont câblés, qui arrivent à dialoguer avec différentes parties prenantes et d'autres pour qui c'est plus difficile. Donc là, on peut utiliser effectivement des outils d'intelligence collective pour s'assurer qu'on s'écoute, on se comprenne et puis qu'on arrive à converger, parce que l'objectif, c'est de converger vers un point de vue commun, une orientation commune ou une action commune. Donc, j'ai pas de boîte à outils spécifique là-dessus. Par contre, ouais, c'est beaucoup une question de mindset, de posture, d'écoute, d'écoute active et aussi quelques outils qu'on peut utiliser aussi dans les entreprises de type intelligence collective pour faire converger finalement vers des points d'intérêt communs, en tout cas vers une direction commune. C'est surtout ça que nous, on a utilisé en tout cas.
En tout cas, nous, dans le process même, comme on a tiré au sort des collaborateurs et des élus représentatifs de la variété, de la diversité du groupe, y compris territorial, c'est presque plus simple d'une certaine manière parce qu'on a déjà des émules au sein des différents territoires. Donc, on a soit des élus, soit des salariés qui sont qui dans le Grand Ouest, qui dans le Sud-Est, qui dans le Nord. Et donc, on a déjà notre réseau d'ambassadeurs. On l'a constitué à partir de ces 60 conventionnaires. Donc, ça nous garantit à la fois d'avoir une sorte de baromètre de l'envie, des attentes, des risques, des enjeux sur tout le territoire, et en même temps une garantie d'applicabilité, de mise en œuvre, c'est ça un peu qui nous obsède, hein, de passer de l'idée à l'action, pour donner le juste suivi de cette convention interne.
Ok, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Il y a une autre question sur la valorisation des compétences, en fait, de ces donc des parties prenantes, différentes parties prenantes, notamment quand c'est donc Stéphanie des conventionnaires, mais aussi Clémence, quand vous parlez de vos réseaux du coup internes, notamment d'ambassadeurs. Comment est-ce que du coup vous valorisez les compétences qui sont acquises en étant investis dans ces pratiques innovantes? Et puis comment derrière voilà sont valorisées dans leur évolution de carrière ou autre leur participation active, c'était dur à dire, pardon, dans la gouvernance de ces politiques. Et puis, donc je laisse Stéphanie peut-être répondre en premier.
Ouais, mais je vais être un peu déceptive parce que pour le coup, je trouve qu'on n'y est pas encore tout à fait. C'est-à-dire que nous, pour expliquer la spécificité du groupe, mais peut-être que mon collègue Vincent, on sait qu'il est autour de la table virtuelle, voudra compléter, amener des éléments, mais en fait, on a une galaxie, le groupe BIF, c'est une galaxie d'entités et d'organisations. Donc, sur les sujets de valorisation des compétences, c'est-à-dire des choses qui peuvent se faire en termes de bénévolat de compétences, il y a des procédés, des principes qui existent. Là, pour nous, c'était quand même beaucoup plus difficile à appliquer. Notre premier sujet, notre premier enjeu, c'était d'assurer la libération entre guillemets pour au moins 4 jours de l'ensemble notamment des salariés. Après, c'est un sujet qu'on lâche pas, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer de creuser, parce qu'à l'évidence, oui, ils ont acquis des compétences très utiles en plus pour leur groupe et pour eux-mêmes. Voilà, donc un peu déceptif, je sais pas Vincent si tu peux compléter ou pas, mais c'est plutôt un chantier, on va dire, à venir que quelque chose qu'on a pu complètement adresser à ce stade.
Super, merci beaucoup. Vincent a dit dans le chat, pas mieux. peut-être Clémence, tu veux prendre la suite?
Oui, alors je vais être déceptive aussi parce que de la même manière, je pense qu'on va pas assez loin sur ce sujet-là, mais c'est une super bonne question, c'est un vrai bon point. C'est-à-dire que ce soit sur des sujets environnementaux ou sur des sujets sociaux, on voit que c'est des sujets où quand même on arrive facilement à mobiliser des gens qui ont ça dans les tripes. Donc, il y a des gens qui y vont avec envie et c'est des gens qui sont hyper clés dans les entreprises parce que c'est des moteurs et puis ils vont au-delà du job, ils vont au-delà du temps de travail, etc. pour mettre de l'énergie sur ces sujets à impact parce que ça leur donne du sens et c'est super. C'est juste qu'à un moment donné, quand le manager de ces personnes-là grogne un peu parce que ça fait pas partie de son job au quotidien. J'ai vu qu'il y avait une question sur est-ce que c'est dans leur feuille de poste. Oui, alors nous, ça l'est pas toujours, mais en fait, il faut que ça le soit. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui apportent une valeur à l'entreprise extra-financière sur sa capacité d'impact positif sur le climat, etc. On l'a déjà dit. Mais à un moment donné, quand il n'y a pas de reconnaissance de la compétence ou de la contribution de ces gens-là, ça peut s'essouffler. Donc, en tout cas, tout intérêt à reconnaître, à valoriser à la fois l'action, c'est-à-dire que ça fait partie d'une contribution attendue de l'entreprise. Nous, la réponse qu'on a à ça, c'est pas tant d'écrire dans la fiche de poste ou de le mettre dans le parcours, enfin dans l'évaluation des compétences, même si on devrait le faire. Par contre, on valorise beaucoup les impacts, c'est-à-dire telle initiative, telle et telle personne ont participé et voilà ce que ça nous a permis de faire, X pourcentage de tonnage de plastique en moins, etc., etc. Donc, on essaie beaucoup de valoriser les impacts et de mettre à l'honneur finalement les gens qui ont contribuer à ça, mais on va pas encore jusqu'à avoir un référentiel de compétences sur des choses qui sont soit techniques dans la sphère environnementale sociale, soit des soft skills de capacité d'embarquement, capacité d'influence, capacité d'animer un dialogue, etc., etc. Parce que ces ambassadeurs ou ces référents, ils développent énormément de choses qu'on je pense, sous-valorisent et pourtant qui ont une valeur énorme pour l'entreprise et pour eux dans leur employabilité. Donc, je soutiens la question à 300% et je pense que les entreprises mériteraient vraiment d'aller plus loin. Et nous, ça fait partie des sujets qu'on a un peu mis de côté, mais sur lesquels il faudrait qu'on travaille clairement beaucoup plus. La valorisation de ces compétences-là qui sont extrêmement riches pour les entreprises.
Super, merci. Ça nous fait une piste d'action pour la journée innovation de la série l'année prochaine, voir comment on peut envisager la valorisation de ces compétences. Du coup, Fouad, tu avais une question, je crois.
Oui, j'avais une question qui peut intéresser nos auditeurs qui souhaiteraient mettre en place ces initiatives dans leurs entreprises. Quelles actions concrètes il faudrait mener dès le départ et surtout, comment est-ce qu'on embarque le top management pour qu'ils nous suivent et puissent nous soutenir dans ces actions-là. En ouverture, vous avez rappelé toutes les deux que vous aviez des modèles un peu spécifiques. Stéphanie, vous êtes un groupe mutualiste, donc vos adhérents ont une part assez importante dans le processus de décision. Et Clémence, vous avez le statut et la qualité d'entreprise à mission. Est-ce que ces deux statuts-là spécifiques ont accompagné cette prise en compte des politiques que vous avez voulu mettre en place? Et comment, en donnant trois petites actions, on pourrait reproduire ce que vous avez conduit, vous, dans vos entreprises, de façon concrète? Peut-être Clémence?
Ok, on change l'ordre, pas de souci. Clairement, avoir une direction, un top management, un comité exécutif, peu importe, en tout cas, une équipe dirigeante qui est convaincue et qui porte, ça fait partie des facteurs clés de succès. Enfin, parce que sinon, il y a des gens qui en bas s'épuisent, essaient de pousser des démarches, mais s'il n'y a pas une volonté stratégique, un soutien, etc., je pense que c'est compliqué et qu'on rame un petit peu. Donc nous, on a la chance d'avoir le statut d'entreprise à mission. Ça veut dire que la famille, nos comités exécutifs, ça fait partie des orientations stratégiques d'aller sur ces sujets à impact positif, que ce soit dans la sphère sociale ou environnementale. Mais c'est surtout très aidant, on va dire, dans la tourmente, c'est-à-dire quand il y a des enjeux de performance économique, quand la situation est compliquée, ben on va avoir tendance à peut-être déprioriser ces sujets-là, sauf si c'est porté par la direction et que c'est intégré pleinement dans les objectifs stratégiques et dans les priorités de l'entreprise. Donc le fait que ce soit mis sur le fronton, c'est une des priorités de l'entreprise, ça aide quand même beaucoup pour pouvoir avoir une démarche qui est pérenne dans le temps. Donc pour moi, ça fait partie des facteurs clés de succès d'avoir effectivement un encadrement et un top management qui est moteur et qui croit dans ces sujets-là. Sinon, c'est compliqué. Je pense.
Merci beaucoup. Stéphanie.
Alors, en fait, Fouad, vous l'avez dit, hein, le système mutualiste est un peu un accélérateur aussi sur ces sujets. Donc, je vous ai rappelé qu'il y avait eu un mandat signé par notre président auprès des 60 conventionnaires. Avant cela, le procédé est passé en conseil d'administration. Mmh. C'est-à-dire que nous avons fait valider par le conseil d'administration du groupe Vive, le fait de lancer cette convention interne santé, climat, biodiversité. Donc oui, ça a été un accélérateur. Après, je n'ai pas monopolisé les 7 minutes qui restent sur toutes les recettes, tous les facteurs clés de succès pour mettre en place ce type d'outils. Je le rappelle, moi je mets à disposition notre recette open source sur comment faire pour mettre en place avec succès ce type de dispositif. Mais on est passé en conseil d'administration, il y avait un portage politique évident et nécessaire à cet endroit, tant par la présidence, donc la direction l'a élue, que par la direction opérationnelle de Delphine Maisonneuve.
Merci beaucoup.
Merci à toutes les deux. Donc, il nous reste peu de temps, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et notamment pour rebondir sur la question posée par Stéphane dans le chat, mais ouvrir un peu. Est-ce que vous envisagez, Clémence, vous étiez en train de dire que du coup, vous étiez passée de cette stratégie plutôt participative, collaborative dans l'environnement et maintenant dans la diversité et inclusion. Est-ce que Stéphanie, vous envisagez aussi d'utiliser le même format, répliquer le même modèle sur d'autres sujets au sein du groupe, et puis Clémence, peut-être ouvrir sur est-ce que vous avez des nouveaux sujets sur lesquels vont se pencher vos réseaux internes et sur lesquels les sujets que vos parties prenantes internes externes ont remonté comme des nouveaux sujets en fait pour ouvrir un peu la discussion. Voilà, peut-être Stéphanie en premier, comme ça je rechange l'ordre.
Alors en fait, on est quand même à la moitié du chemin, c'est-à-dire que là sur cet dispositif, on a suscité des attentes, ça a été un succès dans la production d'idées. Là, on est dans le passage à l'action. Tant qu'on n'aura pas complètement concrétisé, opérationnalisé cette convention, j'entends par là que les idées soient passées entre guillemets dans le droit commun, c'est-à-dire que ce que je vous ai développé brièvement, il y en a 24 des propositions, il y en a 6 qui sont prioritaires. Bon, là, on n'a même pas fini de les implémenter, ces 6. Voilà, il faut qu'on fasse nos preuves sur cette étape 2 d'opérationnalisation. À partir de là, moi, il me semble que le processus est extrêmement vertueux. Il est porteur pour l'entreprise en termes d'efficacité, déjà, en termes d'attractivité. Voilà, donc du coup, oui, je pense que c'est un processus qu'on devrait pouvoir reproduire, mais là, c'est prématuré. Et si on le reproduit, j'aurais envie de le dire, il faut creuser aussi le sillon sur la thématique qui nous est chère, santé, climat, biodiversité. Elle est extrêmement complexe en tant que telle et qu'on pourrait faire des sous-conventions, entre guillemets, par rapport à ces enjeux. Histoire de bien planter le coup et de pas se disperser non plus, parce que si vous faites 15 conventions internes dans une entreprise, ça va un peu galvolder le dispositif. Voilà, mais... En tout cas, là, on est encore à la moitié du chemin, je dirais.
Merci beaucoup. Et Clémence, si tu voulais...
Oui, et de notre côté, en tout cas, pour aller plus loin, en tout cas, sur le dialogue avec les parties prenantes, on a encore beaucoup à faire avec toutes nos parties prenantes, mais je pense qu'il y en a une qui est particulièrement importante pour l'entreprise, c'est ses clients. Ses clients et ses clientes. Je prends deux exemples, c'est sur la sphère environnementale. Bah, si on opère un changement de modèle d'affaires, plus vertueux, etc., par exemple, dans nos boutiques, en mettant en place de la consigne plutôt que l'emballage unique en plastique, etc., ça ne marche que si nos clients et nos clientes nous suivent. Et donc, ça veut dire forcément écouter les perceptions clients, écouter les usages et puis avoir une forme d'influence et de pédagogie, en tout cas de discours de pédagogie vis-à-vis de nos clients et de nos clientes pour les inviter à consommer autrement. Et du coup, on voit bien que c'est un échange qui va dans les deux sens. Donc, il faut qu'on écoute et puis il faut aussi qu'on ait une forme d'influence. Et ça, ça prend du temps, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on continue à travailler pour faire pivoter nos modèles d'affaires et faire pivoter les modes de consommation, les comportements associés. Et il se passe la même chose sur la sphère sociale, c'est-à-dire que, bah, par exemple, sur diversité et inclusion, mais ça marche sur tous les sujets, bah, pour que on soit plus comment dire plus affirmé sur la fierté de la diversité de nos équipes, etc., bah il faut que ce soit complètement lisible, visible dans nos communications, dans nos visuels, dans nos pubs, etc. Mais pour ça, il faut que nos clients soient capables de l'accepter, de l'entendre aussi. Donc voilà, il y a une forme de porosité finalement entre ce qu'on a envie de porter en interne et ce qu'on souhaite véhiculer au travers de nos marques, dans notre image de marque aussi à l'extérieur. Et le dialogue avec les clients et les clientes, à mon avis, on peut aller plus loin, et c'est nécessaire aussi pour pouvoir avoir une forme d'influence, parce que je pense qu'on a une certaine responsabilité d'impact sur notre clientèle et sur la manière dont elles perçoivent le monde, et nos marques sont des vecteurs de communication aussi. Donc c'est un sujet en tout cas sur lequel j'espère qu'on pourra aller encore plus loin, mais il y a beaucoup de choses à faire et c'est vaste.
Génial, merci beaucoup à toutes les deux. Je ne sais pas si Gauthier, Fouad, vous aviez une question complémentaire. Il y a Cécilia dans le chat qui demande à Stéphanie le fichier en open source. Si vous êtes d'accord, Stéphanie, on pourrait peut-être le mettre sur le site de la série et
oui,
renvoyer vers vous comme ça.
Bien sûr, parce qu'il est open source, donc il n'y a aucun problème. Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi Véronique qui l'avait demandé, et plutôt que on va carrément le donner à dispo à tout le monde. Aucun souci. Je vous le renvoie à Inès après.
Super, parfait. Donc, on vous le fera parvenir. Ne vous en faites pas. Et donc, vous pourrez le retrouver avec les autres ressources et notamment les replays de tous les événements de la semaine sur le site de la série. Donc, Gauthier Fouad, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter, ou est-ce qu'on peut clôturer ce webinaire?
Gauthier, je t'en prie.
Merci Fouad. Je veux simplement vous remercier pour vos deux témoignages qui sont particulièrement inspirants. Et voilà, un grand merci.
Merci beaucoup. Et si certains veulent partager leurs témoignages, nos adresses mail sont sur le site internet de la série, donc on sera ravis de les recevoir. Et si vous avez des questions, pareil, vous pouvez nous les poser. On reviendra vers vous avec des réponses un peu plus complètes et un peu plus structurées. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toutes les deux. Et merci à toutes et tous.
Merci, bonne journée.
Merci beaucoup. Tout le monde.
Au revoir. Vous avez des questions liées à cet enregistrement? Rendez-vous sur le site lacademymedef.fr.